Voici les deux textes liturgiques pour ce 19e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de saint Paul aux Éphésiens. Renouvelez-vous, frères, par l'esprit de votre esprit et revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Rejetant donc le mensonge, dites la vérité chacun avec votre prochain. Puisque nous sommes les membres les uns des autres, si vous vous irritez, faites-le sans péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, gardez-vous de donner prise au diable. Que celui qui volait ne vole plus désormais, qu'il travaille au contraire et qu'il exerce ses mains, à quelque ouvrage honnête pour avoir de quoi donner à qui se trouve dans le besoin. On se lève pour l'évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parlait aux princes des prêtres et aux pharisiens en parabole, et il disait : le royaume des cieux était fait semblable à un homme, à un roi qui fit des noces à son fils. Il envoya donc ses serviteurs appeler aux noces les invités, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya de leur chef d'autres serviteurs en disant : allez dire aux invités, voici que j'ai préparé mon dîner. Mes bœufs ont été tués avec mes volailles grasses et tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent. Un premier à sa maison de campagne, un second à ses négoces. Pour les autres, ils se saisirent de ses serviteurs, les accablèrent d'outrages et les mirent à mort. Lorsque le roi en reçut la nouvelle, il entra en colère, envoya ses armées, perdit ses homicides et brûla leur cité. Puis il dit à ses serviteurs : les noces sont prêtes, mais ceux qui étaient invités ne se sont pas montrés dignes. Mais ceux qui étaient invités sans se montrer indignes. Allez donc, sortez de la ville, vers toutes les routes, et tous ceux que vous trouverez, appelez-les aux noces. Les serviteurs sortirent par les chemins et réunirent tout ce qu'ils trouvèrent, bons et mauvais. La salle des noces fut remplie de convives. Or, le roi étant entré pour voir des convives, il vit un homme qui n'était pas vêtu de la robe nuptiale. Il lui dit donc : ami, comment êtes-vous entré ici sans avoir la robe nuptiale ? Et l'homme resta muet. Alors le roi dit à ses serviteurs : jetez-le dans les ténèbres dehors, c'est là que seront les pleurs et les grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Veuillez vous asseoir. Donc j'ai terminé hier la dernière retraite de cette année. Je vous rappelle que j'ai publié sur Internet en page d'accueil, c'est également sur le petit panier qui est à l'entrée de la chapelle, le calendrier 2024 pour les retraites. Donc il y aura 7 retraites. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Une des retraites qui est presque pleine. Déjà, je crois 15 ou 16 personnes qui se sont inscrites. Donc n'attendez pas encore le dernier moment. C'est ouvert, ces retraites sont ouvertes à tout le monde, ceux qui m'écoutent sur Internet, mais évidemment, par priorité, je voudrais quand même les ouvrir aux paroissiens réguliers pour qu'ils puissent suivre les exercices. Donc n'attendez pas le dernier moment. Reprise du cours de mercredi à 19h, ici, donc, il y aura le cours sur les actes du magistère. Attention pour ceux qui viennent à la messe lundi, cette semaine, donc lundi, messe à 8h. Mardi, mercredi et jeudi, messe à 11h. Vendredi et samedi, pas de messe. On prie pour la nouvelle chapelle, comme vous le voyez, on en a de plus en plus besoin. Alors, on voudrait bien arriver à écarter un peu les murs ici, mais j'essaie, ça ne marche pas. Alors, il faut trouver d'autres solutions. Donc, priez pour que nous puissions terminer cette chapelle le plus rapidement possible. J'ai promis de ne pas donner de date. Si j'en donne une, ce sera au moins avant Pâques de 2024. J'espère. Donc, priez pour que nous arrivions à trouver les fonds nécessaires. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui m'écoutent sur Internet, dont certains sont à l'étranger, qui aident régulièrement pour payer tous les frais. Une chapelle de ce genre coûte très cher à aménager, à transformer. Et sans ces bienfaiteurs, nous ne pourrions rien faire. Donc pensez à prier pour ces bienfaiteurs, dont certains habitent très loin. Je sais qu'il y en a un aux États-Unis que je ne connais pas du tout, qui aide régulièrement aussi. Je tiens à le remercier. par Internet s'ils m'écoutent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais vous donner aujourd'hui un cours de modernisme. Alors, soyez pas scandalisés, je ne suis pas devenu moderniste, je précise tout de suite. Pourquoi je vous donne un cours de modernisme? Parce que cet évangile est celui qui est utilisé par tous les modernistes pour détruire la foi de l'Église. Donc je vais vous expliquer d'abord comment eux l'expliquent, et ensuite je vous expliquerai comment l'Église catholique l'explique. En me gardant bien d'avoir une opinion personnelle sur le sujet, je vais donc aller chercher l'explication, non pas dans ma cervelle, mais dans la cervelle des pères de l'Église, surtout dans Saint Jérôme. Et vous verrez par vous-même que les deux explications sont totalement incompatibles. Alors, quelle est cette histoire? Voilà le fils d'un roi qui se marie, le père du roi du pays, donc organise une grande fête, invite plein de monde pour remplir sa salle de festin. Et puis, au moment où tout est prêt, il envoie ses serviteurs chercher les invités et tous trouvent une excuse pour ne pas venir. Dans d'autres textes parallèles, il y en a qui disent qu'ils vont se marier, donc ils n'ont pas le temps. D'autres qui disent qu'ils ont acheté une ferme ou des bœufs et qu'il faut aller essayer la ferme et les bœufs, et donc ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas venir. Bref, ils trouvent des excuses pour ne pas venir. Personne ne vient. Alors le roi renvoie de nouveau des gens, des serviteurs. Non, il faut venir, tout est prêt, venez. Personne ne vient. Donc qu'est-ce qu'il dit? Le roi renvoie ses serviteurs en disant les personnes qui étaient invitées n'étaient pas dignes de venir. Alors on va aller chercher d'autres personnes. Donc allez un peu partout. Allez au sortir des villes, allez par toutes les routes, et tous ceux que vous trouverez, appelez-les aux noces. Vous appelez tout le monde, tous ceux que vous pouvez trouver, pour qu'ils viennent aux noces, pour remplir ma salle de mon festin. Et voilà que la salle est pleine, donc le chef de famille, le roi, arrive dans la salle pour rencontrer les convives. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il trouve un homme qui est revêtu, qui n'est pas revêtu de l'habit de noces. Alors, ça va chauffer, comme on dit vulgairement. Et il lui dit, mon ami, comment êtes-vous rentré ici sans avoir d'habit de noces, de robe nuptiale? Comme l'homme ne peut pas donner de réponse, évidemment. Il va être envoyé, nous dit l'évangéliste Saint Matthieu, il va être envoyé avec les mains et les pieds liés dans les ténèbres extérieures, le lieu des pleurs et des grincements de dents. Voilà ce texte qu'on trouve dans Saint Matthieu, chapitre 22. Alors, comment les modernistes expliquent ce texte? Ce texte, encore une fois, est constamment utilisé, notamment à Rome par Bergoglio. Pratiquement, presque chaque jour, il utilise ce texte. Il va dire, vous voyez, le roi, c'est le bon Dieu. La salle du festin, c'est le paradis. Et Dieu envoie ses serviteurs chercher tout le monde. Les bons, les mauvais, tout le monde peut rentrer. Tout le monde est invité. On accepte tout le monde. Chacun vient comme il est. Cherchez pas à changer. Vous venez comme vous êtes et vous serez accepté avec un grand sourire par le maître du festin. Pour que la salle du festin soit pleine. Vous allez dans n'importe quelle église moderniste, c'est l'explication qu'ils donnent, partout. Peut-être pas aujourd'hui, parce que dans l'église moderne, ils ont tout changé. Ils ont changé aussi les évangiles, évidemment, et les épîtres de chaque jour. Donc je ne sais pas si c'est le même évangile aujourd'hui. Voilà l'explication donnée. C'est donc une explication d'une espèce de charité naturelle qui consiste à accueillir tout le monde au paradis. Tout le monde est accepté, on n'a pas besoin de changer, on n'a pas besoin de se modifier, on n'a pas besoin de se sortir du péché, puisque le bon Dieu, dans sa bonté, accepte tout le monde. Maintenant, changeons de religion. Passons à la religion catholique. Et voyons quelle est l'interprétation de la religion catholique. Comment l'Église catholique a-t-elle, pendant 2000 ans, interprété ce texte? Encore une fois, loin de nous, loin d'un catholique, même l'idée qui puisse nous effleurer de chercher une interprétation personnelle. Ça, c'est du protestantisme. Les protestants, chacun interprète de sa façon. Non. Nous, on va chercher ceux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte. Et ceux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte sont les pères de l'Église. Surtout, essentiellement, le docteur de l'exégèse, à savoir Saint Jérôme. Saint Jérôme, 4e siècle. Donc depuis le 4e siècle, même depuis avant, l'Église n'a jamais changé ses explications. Le rôle du prêtre, c'est tout simplement d'aller pêcher dans ses explications données par la Sainte Église auparavant et expliquer aux gens du monde moderne, parfois avec des termes un peu plus modernes, pour être sûr qu'ils comprennent bien, comment l'Église catholique a toujours interprété ce texte. Donc qui est ce roi ? Et quelle exactement la première question qui se pose, que sont posées les pères, mais les pères est la suivante. Quel est ce mariage? Qui se marie? Et tous les pères répondent de la même façon. Ils disent, ce mariage, c'est le mystère de l'incarnation. C'est le mystère de l'incarnation, à savoir le mariage entre l'humanité et la divinité. Le Fils de Dieu, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Le Père, c'est la première personne de la Sainte Trinité. Et le Père va organiser un grand mariage pour unir la divinité de son divin Fils. La deuxième personne de la Sainte Trinité, évidemment, est Dieu, pour unir la divinité de son divin Fils avec notre humanité, qui va les prendre, qui va créer les toutes pièces, et l'humanité et la divinité du Fils de Dieu vont être réunies dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie le 25 mars. Ça représente donc le mystère de l'incarnation. Alors, deuxième question. Les pères de l'Église se sont posés la question, mais qui étaient donc ces gens qui étaient invités, qui ne sont pas venus? La réponse est très claire chez tous les pères de l'Église. Encore là, il y a unité de tous les pères de l'Église. Ces gens qui étaient invités, c'était le peuple juif de l'Ancien Testament, qui étaient invités, qui ont été invités au cours des siècles. Dieu les a préparés lentement par tous les prophètes qu'il a envoyés pendant des milliers d'années depuis... C'est la création du monde, depuis plus exactement la création de l'homme avec Adam et Ève, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tous les prophètes ont été envoyés par notre Seigneur Jésus, par Dieu lui-même, pour avertir le peuple juif, rassembler le peuple juif, le sortir de l'esclavage en Égypte, lui faire traverser la mer Rouge, le promener dans le désert parce qu'il n'était pas très obéissant, et finalement leur donner la terre promise pour qu'il puisse justement être le berceau dans lequel un jour viendrait notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que disent tous les pères de l'Église. Encore une fois, ce n'est pas mon interprétation personnelle, je n'ai pas d'interprétation personnelle. Très important à comprendre, les gens vont tout de suite nous dire « Ah oui, mais vous êtes contre certains peuples ». Mais non, pas du tout. Ce n'est pas moi qui ai fait cette interprétation, c'est l'interprétation historique. C'est comme ça. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ arrive, donc, il y a 2000 ans, ceux qui avaient été choisis pour le recevoir le refusent. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Je ne dis pas que tout l'intégralité du peuple juif a suivi ce mauvais exemple. Il y a eu évidemment parmi les juifs des gens qui se sont convertis. N'oubliez pas que tous les premiers apôtres, les premiers disciples étaient tous des juifs convertis. Mais malheureusement, l'immense majorité de ce peuple n'a pas voulu être fidèle à celui qui avait été annoncé pendant des milliers d'années. Et lorsque Pilate leur a demandé « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ?»« Notre Seigneur Jésus-Christ, celui que vous appelez votre roi, ou Barabbas ?» Ils ont tous hurlé « Barabbas !» Ils n'ont pas donc voulu venir au banquet. Ne voulant pas venir au banquet, le roi, c'est-à-dire Dieu le Père, est allé chercher d'autres personnes, d'autres invités. C'est comme ça qu'interprète l'Église pendant 20 siècles. Et dans 20 siècles, ce sera toujours comme ça. Cet autre peuple qui va venir prendre la place du peuple juif qui n'a pas voulu venir, c'est le peuple catholique. N'oubliez pas que les premiers juifs qui se sont convertis sont devenus catholiques. Il n'y a pas besoin d'expliquer que Saint-Pierre et Saint-Jacques et Saint-Jean et tous les apôtres et tous les disciples étaient tous des catholiques, mais en même temps, ils étaient tous d'origine juive. L'Église n'a jamais méprisé ça. Et donc, il y a un changement, c'est très net, en quelque sorte, un autre peuple, et on le voit très bien dans l'Évangile, un autre peuple est allé chercher un autre peuple partout dans le monde, et on l'a amené dans la salle du festin pour que cet autre peuple qui n'avait pas reçu les premières nouvelles, les premières notifications, si vous voulez, des prophètes, puissent eux aussi hériter du royaume. Les autres sont malheureusement restés dehors. Pourtant, L'Église a tout fait pour essayer de les récupérer. Elle a plusieurs fois envoyé des serviteurs, des prêtres, des évêques, des saints pour essayer de les rattraper, les ramener de nouveau au bercail. Malheureusement, ils n'ont pas voulu. Parce que Dieu respecte notre libre arbitre. Alors vous allez me dire, monsieur l'abbé, ce n'est pas tout à fait la même interprétation que celle de Bergoglio. C'est exact, elle est même totalement contradictoire. D'autant plus qu'il y a un passage très important dans ce texte que Bergoglio a complètement oublié d'expliquer. C'est que le roi, à savoir Dieu le Père, vient voir la salle du festin pour vérifier que tout est bien préparé. Et il trouve un homme qui n'est pas revêtu de la robe nuptiale. Donc les pères de l'Église se sont posé la question, qui est cet homme qui n'est pas revêtu de la robe nuptiale? La robe nuptiale représente la vertu de charité, disent-ils. Donc cet homme qui n'est pas revêtu de la robe nuptiale, c'est tout simplement un catholique qui a donc en principe sa place dans l'Église, qui n'a pas la vertu de charité. Donc son âme est spirituellement morte. On n'a pas la vertu de charité, c'est qu'on a commis par exemple un péché grave, et ayant commis un péché grave, eh bien évidemment la vertu de charité s'en est allée. Bon, Dieu va pas rester dans une âme qui est maculée de péché grave. Bon. Donc, on voit très bien ici que le roi va donner en quelque sorte une porte honorable de sortie à cette personne, mais l'évangile fait bien remarquer que, à la remarque du roi, « Ami, comment êtes-vous rentré ici sans avoir de robe nuptiale ?» L'homme resta muet. Que signifie ce mutisme ? C'est l'exemple typique d'un catholique qui vit dans le péché mortel et qui ne veut pas changer. Donc il se tait. Ne voulant pas changer, le jugement va tomber. Et le jugement n'est pas un petit jugement de circonstance, c'est un jugement très fort. Liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres de dehors. C'est là que seront les pleurs et les grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ce lieu des pleurs et des grincements de dents, ça annonce ce qu'on appelle l'enfer. Une fois de plus, notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle l'existence de l'enfer. Il va faire cette allusion, en plus de ça, dans les évangiles, 62 fois de plus. 63 fois, notre Seigneur Jésus-Christ va nous parler de l'enfer dans les évangiles. Vous voyez, ceci est extrêmement, extrêmement important de bien comprendre que de Dieu, on ne se moque pas. Dieu n'a jamais, en tant que Dieu, ne peut pas supporter le péché. C'est une chose qu'on a un mal fou à comprendre. J'ai expliqué un petit peu ça dimanche dernier. Dieu, à partir du moment où il s'occupe de nous qui aimons le bon Dieu, Dieu exige que ceux qui aiment Dieu haïssent le démon. Haïssent le péché. Et je vous ai déjà expliqué dimanche dernier que si vous prétendez aimer notre Seigneur Jésus-Christ mais que vous n'avez pas de haine contre le péché, c'est là la preuve que vous n'aimez pas notre Seigneur Jésus-Christ, que votre amour pour lui est un amour complètement faux. Donc il faut, pour pouvoir rentrer dans la salle du festin, rester dans la salle du festin, sauver son âme, la condition sine qua non, c'est d'avoir justement cette robe nuptiale. Cette robe nuptiale qu'on peut perdre et qu'on peut récupérer. On voit très bien, par exemple, dans la parabole de l'enfant prodigue, cet homme qui avait deux fils, un qui envoie tout promener, qui va vivre avec les animaux pendant plusieurs années, ou plusieurs, un temps très long, et qui revient, regrettant son péché, immédiatement le père pardonne, le père donne l'absolution, et revêt l'enfant qui est revenu à la maison paternelle de la robe nuptiale, la même robe nuptiale, c'est-à-dire la robe de la charité. C'est le symbole de la vertu de pénitence qui s'obtient par le sacrement de pénitence, à savoir la confession. Mais on voit très bien, c'est clair et net, jamais, jamais, jamais dans l'évangile, on voit le bon Dieu qui pardonne à un pécheur non repentant. Il n'y a pas un seul texte dans tout l'évangile là-dessus. On nous parle de ça à longueur de journée dans l'Église de Vatican II. Il n'y a pas un seul texte dans l'Écriture sainte qui dit que le bon Dieu pardonne à n'importe quel pécheur du moment qu'il, même s'il ne regrette pas ses péchés. Ici, il y a la preuve avec ce texte absolument, absolument fondamental. Et ça, c'est fondamental parce que la meilleure façon de damner les âmes, c'est quoi? Si je suis supérieur d'âme et que je veux que mes enfants se damnent, qu'est-ce que je fais? Je les laisse vivre dans le péché. Et je leur dis, mon petit garçon, ma petite fille, t'inquiète pas, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est au ciel, et tu restes comme ça, et mon Dieu est plein de miséricorde et t'acceptera comme les autres, puisqu'il accepte tout le monde dans son paradis, surtout ne change pas. Et on est en plein dedans maintenant, il faut le savoir, mes chers frères. On est arrivé à, je pense qu'on est arrivé maintenant à un tournant extrêmement important avec ce synode 2023, va se continuer au mois d'octobre 2024. C'est absolument évident que là, les choses maintenant deviennent de plus en plus claires. Bergoglio a clairement dit qu'il voulait transformer une église avec une hiérarchie, donc de type pyramidal, une hiérarchie qui vient d'en haut, en une église de type horizontal, pour introduire la démocratie dans l'église. En gros, qu'est-ce qui est en train de se faire à ce synode actuel? En tout cas, leur Saint-Père, disons ça comme ça, Bergoglio est en train de demander aux gens qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Ce qui vous plaît dans notre évangile, on garde. Ce qui vous plaît pas, on va enlever, tout simplement. Et il a commencé. Vous êtes au courant de ce scandale absolument ahurissant, qui est tellement scandaleux que heureusement on commence un petit peu à ouvrir des gens qui étaient devenus des aveugles professionnels. Il vient de dire que le bon Dieu, dans sa miséricorde, va maintenant accorder le pouvoir aux prêtres de bénir les unions homosexuelles. Mais ne vous inquiétez pas, a-t-il dit, ce n'est pas un mariage. C'est se moquer du monde. On bénit une chose bonne. Vous allez me dire, mais ça se faisait déjà avant. Bien sûr que ça se faisait déjà avant, malheureusement. Ils font déjà dans l'Église, depuis très longtemps, depuis plusieurs années, des bénédictions de concubinage. Mais là, ça devient de plus en plus officiel. Vous vous rendez compte, les millions de personnes qui vont rester dans le péché mortel à cause de cette déclaration de Bergoglio, qui est absolument ahurissante. On bénit le péché, tout simplement. Et en plus, on bénit le péché contre nature. Ces péchés sont tellement graves. Non pas les tentations. Tout le monde peut avoir des tentations. Ce n'est pas la tentation qui est le péché. Le péché, c'est d'accepter la tentation. C'est valable pour ce genre de péché, pour tous les péchés possibles et imaginables. On voit très bien que l'Église catholique a toujours classifié ceux qui vivent dans le péché du pécheur. Dans ce type de péché contre nature, c'est même des péchés qui crient vengeance contre le ciel. C'est difficile de trouver une expression plus forte dans tout l'évangile, dans le catéchisme traditionnel. Mais encore une fois, ces gens-là qui viennent au bon Dieu et qui demandent pardon, on les accepte tout de suite. On ouvre toute grande la porte de la miséricorde, à condition qu'ils changent. Lorsque Sainte Marie-Madeleine est arrivée à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ a pardonné à Sainte Marie-Madeleine. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit à Sainte Marie-Madeleine, « Va et ne pêche plus, elle a arrêté de pécher. » Voyez, c'est là où on voit la véritable miséricorde de l'Église catholique. La miséricorde de l'Église catholique consiste à pousser le pécheur à regretter ses fautes, changer de vie pour pouvoir être accepté dans la salle du festin, sauver son âme. Par contre, le but de l'Église de Vatican II, c'est clair et net maintenant, il ne cherche même plus à s'en cacher, c'est de maintenir les gens dans le péché. Surtout ne changez pas, vous inquiétez pas, Dieu est bon, on pardonne à tout le monde. Et comme Dieu ne change pas, en poussant les gens à rester dans le péché, on pousse les gens à se donner. C'est exactement ce qui se passe. L'Église de Vatican II est en train de devenir une gigantesque poubelle qui est un sens unique, si vous voulez, vers l'enfer. C'est clair et net maintenant. Regardez ce qui se passe, ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe. Et qu'on ne vienne pas me dire, mais monsieur l'abbé, vous jugez trop vite, vous exagérez, allez demander aux prêtres modernes. Allez demander à vos prêtres, pas vos prêtres, j'espère que non. Allez demander aux prêtres modernes, est-ce que cette interprétation que l'abbé Lafitte nous a donnée comme étant l'interprétation de l'Église officielle, est-elle vraiment, correspond-elle vraiment à l'interprétation de l'Église moderne? Vous verrez par vous-même ce qu'ils vont vous dire, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Bien, je pense, mes bien chers frères, que la conclusion, c'est d'avoir véritablement l'esprit missionnaire. En quoi consiste cet esprit missionnaire? Les missionnaires sont ceux dans l'Évangile qui sont envoyés chercher les catholiques, chercher les gens qui sont partout. Allez donc, sortez des villes, par toutes les routes, tous ceux que vous trouverez, appelez-les aux noces. Venez amener les gens à la vérité. Venez amener les gens au chemin du confessionnal. Dans quelques mois, j'espère, nous aurons une gigantesque cathédrale à notre disposition, avec la grâce du bon Dieu. Nous aurons une belle église à notre disposition. Allez chercher les gens. Mais allez pas leur mentir. Faut pas dire aux gens, vous inquiétez pas, la belle Lafitte est tout gentille, tout mignon, tout mignon, tout mignon, tout mignon. Et il pardonne à tout le monde et vous pouvez rester comme vous êtes en vivant un péché jusqu'au cou. Pas question. Les gens qui veulent venir sont des gens qui doivent chercher le vrai. Toute personne qui cherche le vrai est bienvenue dans nos chapelles. Une personne qui ne cherche pas le vrai, une personne qui cherche à rester dans le péché, on va pas l'aider à rester dans le péché. Imaginez une mère de famille qui dise à son enfant, je t'aime de tout mon cœur, mais tu peux rester dans le péché, comme ça tu vas tomber en enfer un peu plus vite. Mais je t'aime de tout mon cœur. Elle est où? Il est où l'amour d'une mère pour son fils ou sa fille? Voilà bien, chers frères, ce qu'il nous faut prêcher, il nous faut prêcher ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est rien d'autre de partir de par le monde et amener les gens à chercher le vrai. Et il y en a. Vous pouvez me dire, monsieur l'abbé, en 2023, plus personne comme ça. C'est totalement faux. Je reçois, pas tous les jours, mais presque des messages de gens que je ne connais pas, des gens qui écoutent les cours de l'acte du magistère, par exemple, qui écoutent les différentes choses qui sont sur le site, et qui me remercient qu'ils ne sont pas catholiques. Et des gens qui commencent maintenant à me dire, voilà, monsieur l'abbé, moi j'aimerais bien retrouver la paix du bon Dieu, mais il y a un petit problème, ma dernière confession remonte à 50 ans, je fais quoi? Eh bien, je leur dis, écoutez, jamais trop tard pour bien faire. Bienvenue au club. Ici, on spécialise dans les gens qui veulent se convertir. Vous voulez vous convertir avec la grâce du bon Dieu, tout est possible, mais il faut que ce soit le bon Dieu qui fasse le travail. Et le bon Dieu nous les amène ici. Et puis on essaie de les aider, on essaie de les recevoir s'il faut, et puis on les aide à changer de vie. Mais je ne vais pas aller leur mentir. Je ne vais pas aller leur dire, vous inquiétez pas, Dieu est bon, pas besoin de changer. Ils vont me dire, ce genre de petit baratin, mais je l'entends dans toutes les églises modernes, je n'ai pas besoin de venir ici pour ça. Par contre, si on leur dit la vérité, attention, il y a un ciel, attention, il y a un enfer. Attention, il y a un Dieu qui a créé les hommes et qui, parce que nous avons été créés par Dieu, nous avons donc des devoirs à son égard. Entre autres, le devoir de l'adorer et d'obéir à sa loi. Et sa loi, ce n'est pas vous qui l'avez faite, ni moi. Que ça vous plaise ou non, c'est la loi qui est imposée à tous les hommes. C'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Vous y êtes tenus. Et parce que cette loi existe, eh bien, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Pas question, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le monde. Dans le monde véritable. Et à ce moment-là, dès qu'on voit ce début de bonne volonté, mais alors à ce moment-là, on voit très bien comment le bon Dieu ouvre les portes de sa miséricorde toute grande pour que cette personne puisse se convertir. Voilà ce qu'il faut. Voilà le genre de fidèles que je voudrais avoir ici. Lorsque nous aurons cette nouvelle église avec la grâce du bon Dieu, moi je prêche, et je suis au confessionnal, j'essaie de faire mon travail de prêtre, mais vous allez devoir faire votre travail apostolique pour aller me chercher les gens. Alors vous allez aller de par les villes, de par les routes pour trouver ceux qui viennent aux noces. Mais prenez pas n'importe qui. Prenez pas des gens qui ne veulent pas se convertir, surtout pas, sauf qui peut. Et moi, mon travail, un des travaux du prêtre, une des œuvres que le prêtre doit faire, c'est de vérifier, comme ici on le voit, le roi qui rentre pour vérifier les convives. Ce roi est aussi le symbole du prêtre dans la paroisse. Il vient dans la maison pour vérifier que tous les gens qui sont dans la maison cherchent le vrai. Et si le prêtre trouve dans la maison, c'est-à-dire dans sa chapelle, une personne qui ne cherche pas le vrai, qui refuse de changer, qui essaie d'imposer sa vie pécamineuse à tous ceux qui sont autour de lui, c'est comme une pomme pourrie qu'on met au milieu d'un panier de bonnes pommes. Mais monsieur l'abbé, vous n'avez rien compris, les temps ont changé. Maintenant, si vous mettez une pomme pourrie au milieu d'un panier de 150 bonnes pommes, vous allez voir. Toutes les bonnes pommes vont influencer la mauvaise pomme qui va devenir toute verte et toute belle à croquer. Si vous voyez ça se passer une fois, vous voulez me prévenir. D'accord? Moi, j'ai jamais vu ça. C'est toujours l'inverse qui se passe. La mauvaise pomme va contaminer tout le monde. Ah, monsieur l'abbé, mais il faut être charitable à l'égard des mauvaises pommes et des pommes toutes pourries. C'est quoi cette charité? Une charité qui consiste à pourrir toutes les bonnes pommes? Si le bon Dieu m'a donné 150 personnes, il faudrait déjà un peu les tasser pour les mettre dans la chapelle. Mais enfin, peut-être arrive à les tasser quand même. Si le bon Dieu me donne 150 bonnes pommes, Je vais pas dire une mauvaise pomme qui vient d'arriver, mais tout est contaminé. La porte vous est grande ouverte parce que le bon Dieu est bon et plein de miséricorde. Donc continuez votre travail de destruction et vous contaminez tout ça. Et vous aurez une prime pour chaque contamination. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, mais bien cher frère, cet évangile, vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, vous prenez ça à la rigolade, comme on dit vulgairement. Je ne prends pas du tout ça à la rigolade, c'est ça de super sérieux. Si vous ne croyez pas, vérifiez. Allez vérifier. Il y a encore quelques jours, j'ai lu un texte de Bergoglio à Rome. C'était l'interprétation, comme par hasard, de ce texte. Il disait bien, le bon Dieu nous demande d'aller chercher tout le monde. Venez tous, tout le monde est bienvenu, et venez comme vous êtes. Surtout pas besoin de changer. C'est les assassins qui disent ça. Donc, mes bien chers frères, demandons cette grâce d'être fidèles. Fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les apôtres sont partis prêcher l'évangile après la résurrection et l'ascension au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur ne les a pas envoyés pour prêcher les idées du monde, la liberté, l'égalité, la fraternité. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Allez, baptisez, prêchez. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alors, mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie, demandons à notre Sainte Vierge Marie d'avoir cet esprit apostolique. Cet esprit apostolique, l'esprit apostolique, c'est quoi ? C'est l'amour du vrai, l'amour de la vérité, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez l'amour de vos âmes, ayez l'amour des âmes de ceux qui sont autour de vous et qui attendent de pouvoir être amenés justement dans le lieu où se prêche la vérité par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous utilise comme des instruments, vous et moi, mes bien chers frères. Alors voilà ce qu'il faut demander. Il faut demander cette grâce par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie. Aimez la Très Sainte Vierge Marie. Priez votre chapelet. Faites prier dans vos familles, surtout les enfants, pour que nous puissions avoir, avec la grâce du bon Dieu, cette chapelle le plus vite possible. Nous trouvions les fonds pour pouvoir l'aménager, afin que cette maison devienne un véritable refuge, une maison de refuge, pour que tous les pécheurs qui cherchent le vrai puissent trouver le vrai avec un V majuscule. Et tout ça passe par la Très Sainte Vierge Marie. Demandons-lui toutes les grâces dont nous avons besoin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.